À ce point de vue-là, c'était extraordinaire, mais cela ne me semblait pas d'un art, comme on dit, très élevé, dit Swann en souriant. Élevé à la hauteur d'une institution, interrompit Cottard en levant les bras avec une gravité simulée. Toute la table éclata de rire. Quand je vous disais qu'on ne peut pas garder son sérieux avec lui, dit Madame Verdurin à Forcheville, au moment où on s'y attend le moins, il vous sort une calembredaine. Mais elle remarqua que seul Swann ne s'était pas déridé. Du reste, il n'était pas très content que Cottard fît rire de lui devant Forcheville. Mais le peintre, au lieu de répondre d'une façon intéressante à Swann, ce qu'il eût probablement fait s'il eût été seul avec lui, préféra se faire admirer des convives en plaçant un morceau sur l'habileté du maître disparu. « Je me suis approché, dit-il, pour voir comment c'était fait. J'ai mis le nez dessus. »« Ah bien, wish, on ne pourrait pas dire si c'est fait avec de la colle, avec du rubis, avec du savon, avec du bronze, avec du soleil, avec du caca. »« Et un fond 12 !» s'écria trop tard le docteur, dont personne ne comprit l'interruption. « Ça a l'air fait avec rien, » reprit le peintre. « Pas plus moyen de découvrir le truc que dans la ronde ou les régentes. Et c'est encore plus fort comme patte que Rembrandt et que Hals. Tout y est. Mais non, je vous jure. » Et comme les chanteurs parvenus à la note la plus haute qu'ils puissent donner continuent en voix de tête, piano, il se contenta de murmurer, et en riant, comme si en effet cette peinture eût été dérisoire à force de beauté. Ça sent bon, ça vous prend à la tête, ça vous coupe la respiration, ça vous fait des chatouilles. Et pas mèche de savoir avec quoi c'est fait, c'en est sorcier. C'est de la rouerie, c'est du miracle. Éclatant tout à fait de rire, c'en est malhonnête. En s'arrêtant, redressant gravement la tête, prenant une note de basse profonde qu'il tâcha de rendre harmonieuse, il ajouta « Et c'est si loyal !» Sauf au moment où il avait dit « plus fort que la ronde », blasphème qui avait provoqué une protestation de Madame Verdurin, qui tenait la ronde pour le plus grand chef-d'œuvre de l'univers avec la neuvième et la Samothrace, et a « fait avec du caca », qui avait fait jeter à Forcheville un coup d'œil circulaire sur la table pour voir si le mot passait, et avait ensuite amené sur sa bouche un sourire prude et conciliant, tous les convives, excepté Swann, avaient attaché sur le peintre des regards fascinés par l'admiration. « Ce qu'il m'amuse quand il s'emballe comme ça !» s'écria quand il eut terminé Madame Verdurin, ravie que la table fût justement si intéressante le jour où M. de Forcheville venait pour la première fois. « Et toi, qu'est-ce que tu as resté comme cela, bouche bée, comme une grande bête » dit-elle à son mari. « Tu sais pourtant qu'il parle bien. » On dirait que c'est la première fois qu'il vous entend. Si vous l'aviez vu pendant que vous parliez, il vous buvait. Et demain, il nous récitera tout ce que vous avez dit sans manger un mot. Mais non, c'est pas de la blague, dit le peintre, enchanté de son succès. Vous avez l'air de croire que je fais le boniment, que c'est du chiquet. Je vous y mènerai voir, vous direz si j'ai exagéré. Je vous fiche mon billet que vous revenez plus emballé que moi. « Mais nous ne croyons pas que vous exagérez. Nous voulons seulement que vous mangiez et que mon mari mange aussi. Redonnez de la sole normande à monsieur. Vous voyez bien que la sienne est froide. Nous ne sommes pas si pressés. Vous servez comme s'il y avait le feu. Attendez donc un peu pour donner la salade. » Madame Cottard, qui était modeste et parlait peu, savait pourtant ne pas manquer d'assurance quand une heureuse inspiration l'avait fait trouver un mot juste. Elle sentait qu'elle aurait du succès, cela la mettait en confiance. Et ce qu'elle en faisait était moins pour briller que pour être utile à la carrière de son mari. Aussi ne laissa-t-elle pas échapper le mot de salade que venait de prononcer Madame Verdurin. « Ce n'est pas de la salade japonaise, » dit-elle à mi-voix en se tournant vers Odette. Et, ravie et confuse de la propos et de la hardiesse qu'il y avait à faire ainsi une allusion discrète mais claire à la nouvelle et retentissante pièce de Dumas, elle éclata d'un rire charmant, d'ingénu, peu bruyant, mais si irrésistible qu'elle resta quelques instants sans pouvoir le maîtriser. « Qui est cette dame ? Elle a de l'esprit, » dit Forcheville. Non, mais nous vous en ferons si vous venez tous dîner vendredi. Je vais vous paraître bien provincial, monsieur, dit madame Cottard à Swann, mais je n'ai pas encore vu cette fameuse Francillon dont tout le monde parle. Le docteur y est allé. Je me rappelle même qu'il m'a dit avoir eu le très grand plaisir de passer la soirée avec vous. Et j'avoue que je n'ai pas trouvé raisonnable qu'il loue des places pour y retourner avec moi. Évidemment, au théâtre français, on ne regrette jamais sa soirée, c'est toujours si bien joué. Mais comme nous avons des amis très aimables. Madame Cottard prononçait rarement un nom propre et se contentait de dire des amis à nous, un de mes amis, par distinction, sur un ton factice et avec l'air d'importance d'une personne qui ne nomme que qui elle veut. Qui ont souvent des loges et ont la bonne idée de nous emmener à toutes les nouveautés qui en valent la peine. Je suis toujours sûre de voir Francillon un peu plus tôt ou un peu plus tard et de pouvoir me former une opinion. Je dois pourtant confesser que je me trouve assez sotte, car dans tous les salons où je vais en visite, on ne parle naturellement que de cette malheureuse salade japonaise. On commence même à en être un peu fatigué, ajouta-t-elle en voyant que Swann n'avait pas l'air aussi intéressé qu'elle l'aurait cru par une si brûlante actualité. Il faut avouer pourtant que cela donne quelquefois prétexte à des idées assez amusantes. Ainsi, j'ai une de mes amies qui est très originale, quoique très jolie femme, très entourée, très lancée, et qui prétend qu'elle a fait faire chez elle cette salade japonaise, mais en faisant mettre tout ce qu'Alexandre Dumas fils dit dans la pièce. Elle avait invité quelques amis à venir en manger. Malheureusement, je n'étais pas des élus, mais elle nous l'a raconté tantôt à son jour. Il paraît que c'était détestable. Elle nous a fait rire aux larmes. Mais vous savez, tout est dans la manière de raconter, dit-elle en voyant que Swann gardait un air grave. Et, supposant que c'était peut-être parce qu'il n'aimait pas Francillon, du reste, je crois que j'aurai une déception. Je ne crois pas que cela vaille Serge Panine, l'idole de Madame de Crécy. Voilà au moins des sujets qui ont du fond, qui font réfléchir. Mais donner une recette de salade sur la scène du théâtre français, tandis que Serge Panine. Du reste, comme tout ce qui vient de la plume de Georges Honnête, c'est toujours si bien écrit. Je ne sais pas si vous connaissez le maître de forge, que je préférerais encore à Serge Panine. Pardonnez-moi, lui dit Swann d'un air ironique, mais j'avoue que mon manque d'admiration est à peu près égal pour ces deux chefs-d'œuvre. Vraiment? Qu'est-ce que vous leur reprochez? Est-ce un parti pris? Trouvez-vous peut-être que c'est un peu triste? D'ailleurs, comme je le dis toujours, il ne faut jamais discuter sur les romans ni sur les pièces de théâtre. Chacun a sa manière de voir. Et vous pouvez trouver détestable ce que j'aime le mieux. Elle fut interrompue par Forcheville qui interpellait Swann. En effet, tandis que Madame Cottard parlait de Francillon, Forcheville avait exprimé à Madame Verdurin son admiration pour ce qu'il avait appelé le petit speech du peintre. Monsieur a une facilité de parole, une mémoire, avait-il dit à Madame Verdurin quand le peintre eut terminé. Comme j'en ai rarement rencontré. Bigre, je voudrais bien en avoir autant. Il ferait un excellent prédicateur. On peut dire qu'avec Monsieur Bréchot, vous avez là deux numéros qui se valent. Je ne sais même pas si, comme Platine, celui-ci ne donnerait pas encore le pion au professeur. Ça vient plus naturellement, c'est moins recherché. Quoi qu'il ait dit, chemin faisant, quelques mots un peu réalistes, mais c'est le goût du jour. Je n'ai pas souvent vu tenir le crachoir avec une pareille dextérité, comme nous disions au régiment, où pourtant j'avais un camarade que justement monsieur me rappelait un peu. À propos de n'importe quoi, je ne sais que vous dire, sur ce vers par exemple, il pouvait dégoiser pendant des heures. Non pas à propos de ce vers, ce que je dis est stupide, mais à propos de la bataille de Waterloo, de tout ce que vous voudrez. Et il nous envoyait chemin faisant des choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Du reste, Swann était dans le même régiment, il a dû le connaître. Vous voyez souvent Monsieur Swann? Demanda Madame Verdurin. Mais non, répondit Monsieur de Forcheville. Et comme pour se rapprocher plus aisément d'Odette, il désirait être agréable à Swann, voulant saisir cette occasion pour le flatter, de parler de ses belles relations, mais d'en parler en homme du monde sur un ton de critique cordial et n'avoir pas l'air de s'en féliciter comme d'un succès inespéré. N'est-ce pas, Swann? Je ne vous vois jamais. D'ailleurs, comment faire pour le voir? Cet animal-là est tout le temps fourré chez les La Trémoille, chez les Lhomme, chez tout ça. Imputation d'autant plus fausse d'ailleurs que depuis un an, Swann n'allait plus guère que chez les Verdurin. Mais le seul nom de personne qu'il ne connaissait pas était accueilli chez eux par un silence réprobateur. Monsieur Verdurin, craignant la pénible impression que ces noms d'ennuyeux, surtout lancés ainsi sans tact à la face de tous les fidèles, avaient dû produire sur sa femme, jeta sur elle à la dérobée un regard plein d'inquiète sollicitude. Il vit alors que dans sa résolution de ne pas prendre acte, de ne pas avoir été touché par la nouvelle qui venait de lui être notifiée, de ne pas seulement rester muette, mais d'avoir été sourde, comme nous l'affectons quand un ami fautif essaie de glisser dans la conversation une excuse que ce serait avoir l'air d'admettre que de l'avoir écouté sans protester, ou quand on prononce devant nous le nom défendu d'un ingrat, Madame Verdurin, pour que son silence n'eût pas l'air d'un consentement, mais du silence ignorant des choses inanimées, avait soudain dépouillé son visage de toute vie, de toute mobilité. Son front bombé n'était plus qu'une belle étude de ronde bosse où le nom de ces La Trémoille, chez qui était toujours fourré Swann, n'avait pu pénétrer. Son nez, légèrement froncé, laissait voir une échancrure qui semblait calquée sur la vie. On nous dit que sa bouche entr'ouverte allait parler. Ce n'était plus qu'une cire perdue, qu'un masque de plâtre, qu'une maquette pour un monument, qu'un buste pour le palais de l'industrie, devant lequel le public s'arrêterait certainement pour admirer comment le sculpteur, en exprimant l'imprescriptible dignité des Verdurin opposée à celle des La Trémoille et des Lhomme, qu'ils valent certes ainsi que tous les ennuyeux de la terre, était arrivé à donner une majesté presque papale à la blancheur et à la rigidité de la pierre. Mais le marbre finit par s'animer et fit entendre qu'il fallait ne pas être dégoûté pour aller chez ces gens-là, car la femme était toujours ivre et le mari si ignorant qu'il disait Collidor pour corridor. On me paierait bien cher que je ne laisserais pas entrer ça chez moi, conclut Madame Verdurin en regardant Swann d'un air impérieux. Sans doute, elle n'espérait pas qu'il se soumettrait jusqu'à imiter la sainte simplicité de la tante du pianiste qui venait de s'écrier. Voyez-vous ça? Ce qui m'étonne, c'est qu'ils trouvent encore des personnes qui consentent à leur causer. Il me semble que j'aurais peur. Un mauvais coup est si vite reçu. Comment y a-t-il encore du peuple assez brute pour leur courir après? Que ne répondait-il du moins comme Forcheville? Dame, c'est une duchesse. Il y a des gens que ça impressionne encore. Ce qui aurait permis au moins à Madame Verdurin de répliquer. Grand bien leur fasse. Au lieu de cela, Swann se contenta de rire d'un air qui signifiait qu'il ne pouvait même pas prendre au sérieux une pareille extravagance. Monsieur Verdurin, continuant à jeter sur sa femme des regards furtifs, voyait avec tristesse et comprenait trop bien qu'elle éprouvait la colère d'un grand inquisiteur qui ne parvient pas à extirper l'hérésie. Et pour tâcher d'amener Swann à une rétraction, comme le courage de ses opinions paraît toujours un calcul et une lâcheté aux yeux de ceux à l'encontre de qui il s'exerce, monsieur Verdurin l'interpella. Dites donc franchement votre pensée. Nous n'irons pas le leur répéter. À quoi Swann répondit: Mais ce n'est pas du tout par peur de la duchesse, si c'est des La Trémoille que vous parlez. Je vous assure que tout le monde aime aller chez elle. Je ne vous dis pas qu'elle soit profonde. Il prononça profonde comme si ça avait été un mot ridicule, car son langage gardait la trace d'habitude d'esprit qu'une certaine rénovation, marquée par l'amour de la musique, lui avait momentanément fait perdre. Il exprimait parfois ses opinions avec chaleur. Mais très sincèrement, elle est intelligente et son mari est un véritable lettré. Ce sont des gens charmants. Si bien que Madame Verdurin, sentant que par ce seul infidèle elle serait empêchée de réaliser l'unité morale du petit noyau, ne put pas s'empêcher dans sa rage contre cet obstiné qui ne voyait pas combien ses paroles la faisaient souffrir, de lui crier du fond du cœur. « Trouvez-le si vous voulez, mais du moins ne nous le dites pas. » « Tout dépend de ce que vous appelez intelligence, » dit Forcheville qui voulait briller à son tour. « Voyons, Swann, qu'entendez-vous par intelligence ?»« Voilà, » s'écria Odette, « voilà les grandes choses dont je lui demande de me parler. Mais il ne veut jamais. »« Mais si, » protesta Swann. « Cette blague, » dit Odette. « Blague à tabac ?» demanda le docteur. Pour vous, reprit Forcheville, l'intelligence, est-ce le bagout du monde, les personnes qui savent s'insinuer? Finissez votre entremets, qu'on puisse enlever votre assiette, dit Madame Verdurin d'un ton aigre en s'adressant à sa nièce, lequel, absorbé dans ses réflexions, n'avait cessé de manger. Et peut-être un peu honteuse du ton qu'elle avait pris. Cela ne fait rien, vous avez encore votre temps. Mais si je vous le dis, c'est pour les autres. Parce que ça les empêche de servir. Il y a, dit Brichot en martelant les syllabes, une définition bien curieuse de l'intelligence dans ce doux anarchiste de Fénelon. Écoutez, dit à Forcheville et au docteur Madame Verdurin, il va nous dire la définition de l'intelligence par Fénelon. C'est intéressant. On n'a pas toujours l'occasion d'apprendre cela. Mais Brichot attendait que Swann eût donné la sienne. Celui-ci ne répondit pas, et en se dérobant, fit manquer la brillante joute que Madame Verdurin se réjouissait d'offrir à Forcheville. « Naturellement, c'est comme avec moi, » dit Odette d'un ton boudeur. « Je ne suis pas fâchée de voir que je ne suis pas la seule qu'il ne trouve pas à la hauteur. » « C'est de la trémouille que Madame Verdurin nous a montré comme si peu recommandable. » demanda Brichot en articulant avec force. « Descendent-ils de ceux que cette bonne snob de Madame de Sévigné avouait être heureuse de connaître parce que cela faisait bien pour ses paysans ?»« Il est vrai que la marquise avait une autre raison et qui pour elle devait primer celle-là, car, gens de lettres dans l'âme, elle faisait passer la copie avant tout. Or, dans le journal qu'elle envoyait régulièrement à sa fille, c'est Madame de la Trémouaille, bien documentée par ses grandes alliances, qui faisait la politique étrangère. Mais non, je ne crois pas que ce soit la même famille, dit à tout hasard Madame Verdurin. Sa nièce, qui depuis qu'il avait rendu précipitamment au maître d'hôtel son assiette encore pleine, s'était replongée dans un silence méditatif, en sortit enfin pour raconter en riant l'histoire d'un dîner qu'il avait fait avec le duc de la Trémouaille, et d'où il résultait que celui-ci ne savait pas que George Sand était le pseudonyme d'une femme. Swann, qui avait de la sympathie pour sa nièce, crut devoir lui donner sur la culture du duc des détails montrant qu'une telle ignorance de la part de celui-ci était matériellement impossible. Mais tout d'un coup il s'arrêta. Il venait de comprendre que sa nièce n'avait pas besoin de ses preuves et savait que l'histoire était fausse pour la raison qu'il venait de l'inventer il y avait un moment. Cet excellent homme souffrait d'être trouvé si ennuyeux par les Verdurin et, ayant conscience d'avoir été plus terne encore à ce dîner que d'habitude, il n'avait pas voulu le laisser finir sans avoir réussi à amuser. Il capitula si vite, eut l'air si malheureux de voir manquer l'effet sur lequel il avait compté et répondit d'un ton si lâche à Swann pour que celui-ci ne s'acharnât pas à une réfutation désormais inutile. « C'est bon, c'est bon. En tout cas, même si je me trompe, ce n'est pas un crime, je pense. » Que Swann aurait voulu pouvoir dire que l'histoire était vraie et délicieuse. Le docteur qui les avait écoutés eut l'idée que c'était le cas de dire « C'est non è vero. » Mais il n'était pas assez sûr des mots et craignit de s'embrouiller. Après le dîner, Forcheville alla de lui-même vers le docteur. Elle n'a pas dû être mal, Madame Verdurin. Et puis c'est une femme avec qui on peut causer. Nous parlons de Madame de Crécy, dit-il à M. Verdurin qui s'approchait, la pipe à la bouche. Je me figure que comme corps de femme, j'aimerais mieux l'avoir dans mon lit que le tonnerre, dit précipitamment Cottard, qui depuis quelques instants attendait en vain que Forcheville reprît haleine pour placer cette vieille plaisanterie dont il craignait que ne revînt pas l'à-propos si la conversation changeait de cours, et qu'il débita avec cet excès de spontanéité et d'assurance qui cherche à masquer la froideur et l'émoi inséparables d'une récitation. Forcheville la connaissait, il la comprit et s'en amusa. Quant à M. Verdurin, il ne marchanda pas sa gaieté, car il avait trouvé depuis peu pour la signifier un symbole autre que celui dont usait sa femme, mais aussi simple et aussi clair. À peine avait-il commencé à faire le mouvement de tête et d'épaule de quelqu'un qui s'esclaffe, qu'aussitôt il se mettait à tousser, comme si, en riant trop fort, il avait avalé la fumée de sa pipe. Et la gardant toujours au coin de sa bouche, il prolongeait indéfiniment le simulacre de suffocation et d'hilarité. Ainsi, lui et Madame Verdurin, qui en face, écoutant le peintre qui lui racontait une histoire, fermaient les yeux avant de précipiter son visage dans ses mains, avaient l'air de deux masques de théâtre qui figuraient différemment la gaieté. Monsieur Verdurin avait d'ailleurs fait sagement en ne retirant pas sa pipe de sa bouche, car Cottard, qui avait besoin de s'éloigner un instant, fit à mi-voix une plaisanterie qu'il avait apprise depuis peu et qu'il renouvelait chaque fois qu'il avait à aller au même endroit. « Il faut que j'aille entretenir un instant le duc d'Aumale. » De sorte que la quinte de Monsieur Verdurin recommença. « Voyons. » « Enlève donc ta pipe de ta bouche, tu vois bien que tu vas t'étouffer à te retenir de rire comme ça, » lui dit Madame Verdurin qui venait offrir des liqueurs. « Quel homme charmant que votre mari, il a de l'esprit comme quatre, » déclara Forcheville à Madame Cottard. « Merci, madame. Un vieux troupier comme moi, ça ne refuse jamais la goutte. » « Monsieur de Forcheville trouve Odette charmante, » dit Monsieur Verdurin à sa femme. « Mais justement, elle voudrait déjeuner une fois avec vous. Nous allons combiner ça, mais il ne faut pas que Swann le sache. Vous savez, il met un peu de froid. Ça ne vous empêchera pas de venir dîner, naturellement. Nous espérons vous avoir très souvent. Avec la belle saison qui vient, nous allons souvent dîner en plein air. Cela ne vous ennuie pas, les petits dîners au bois ? Bien, bien, ce sera très gentil. » « Est-ce que vous n'allez pas travailler de votre métier, vous ? » cria-t-elle au petit pianiste, afin de faire montre devant un nouveau de l'importance de Forcheville, à la fois de son esprit et de son pouvoir tyrannique sur les fidèles. « Monsieur de Forcheville était en train de me dire du mal de toi, » dit Madame Cottard à son mari quand il rentra au salon. Et lui, poursuivant l'idée de la noblesse de Forcheville qu'il occupait depuis le commencement du dîner, lui dit « Je soigne en ce moment une baronne, la baronne Putbus. Les Putbus étaient aux croisades, n'est-ce pas ? Ils ont en Poméranie un lac qui est grand comme 10 fois la place de la Concorde. Je la soigne pour de l'arthrite sèche. C'est une femme charmante. Elle connaît du reste Madame Verdurin, je crois. » Ce qui permit à Forcheville, quand il se retrouva un moment après seul avec Madame Cottard, de compléter le jugement favorable qu'il avait porté sur son mari. « Et puis, il est intéressant. On voit qu'il connaît du monde. Dame, ça c'est tant de choses, les médecins. » « Je vais jouer la phrase de la sonate pour Monsieur Swann, » dit le pianiste.
« Ah, bigre, ce n'est pas au moins le serpent à sonate ?» demanda M. de Forcheville pour faire de l'effet.
Mais le docteur Cottard, qui n'avait jamais entendu ce calembour, ne le comprit pas et crut à une erreur de M. de Forcheville. Il s'approcha vivement pour la rectifier. « Mais non, ce n'est pas serpent à sonate qu'on dit. C'est serpent à sonnette, » dit-il d'un ton zélé, impatient et triomphal. Forcheville lui expliqua le calembour. Le docteur rougit. « Avouez qu'il est drôle, docteur. »« Oh, je le connais depuis si longtemps, » répondit Cottard. Mais ils se turent. Sous l'agitation des trémolos de violon qui la protégeaient de leur tenue frémissante à 2 octaves de là, et comme dans un pays de montagne, derrière l'immobilité apparente et vertigineuse d'une cascade, on aperçoit 200 pieds plus bas la forme minuscule d'une promenade, la petite phrase venait d'apparaître, lointaine, gracieuse, protégée par le long déferlement du rideau transparent, incessant et sonore. Et Swann, en son cœur, s'adressa à elle comme à une confidente de son amour, comme à une amie d'Odette qui devrait bien lui dire de ne pas faire attention à ce Forcheville.